Mesdames et messieurs, chères clientes et clients, et merci Salvatore pour la gentille introduction. Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette conférence téléphonique hebdomadaire ou mensuelle à partir de maintenant. Je m'appelle Sandro Merino, je suis Chief Investment Officer à la Basel Cantonal Bank et à la Banque Claire. Et avant de commencer mon exposé, j'aimerais vous préciser différentes choses. Les fichiers audio ainsi que, que la transcription de cette conférence téléphonique et de celles réalisées à l'avenir seront publiés sur les sites internet de la Banque Claire, claire.ch, où vous trouverez par ailleurs des informations telles que les horaires d'ouverture actuels de nos succursales ainsi que les possibilités dont vous disposez pour contacter vos conseillers et conseillères par téléphone, par email ou désormais aussi par vidéo. N'hésitez pas à en parler directement avec eux. Aujourd'hui, j'aimerais surtout parler de l'évolution des marchés financiers et des répercussions économiques de la pandémie, y compris sur les mandats de gestion de fortune et solutions de placement proposées par la Banque Claire. En effet, mon équipe et moi-même assumons la responsabilité des stratégies de placement élaborées dans ce cadre. Je tiens tout d'abord à préciser que nous aussi, gérants de fortune de la Banque Claire, nous nous soucions avant tout de la santé de la population et exprimons toute notre compassion pour les victimes de cette pandémie. Depuis notre dernière conférence téléphonique, le 14 mai, le nombre d'infections confirmées dans le monde est passé de 4 à 5,6 millions. Même s'il ne croît plus de façon exponentielle, on recense encore quelque 1,5 million de nouveaux cas par mois. Les États-Unis demeurent l'épicentre de la pandémie, avec 20 000 infections confirmées chaque jour. Le pays enregistre une lente baisse de la courbe épidémique, mais ne reste pas très loin du pic de 30 000 cas par jour observé fin avril. Les nombreux assouplissements mis en œuvre en Suisse et dans de nombreux autres pays européens depuis fin avril, ne semble pour l'instant pas avoir compromis la chute du nombre de cas de coronavirus. Les milieux politiques et les marchés financiers se focalisent donc de plus en plus sur le redémarrage de l'économie et sur la lutte contre les graves conséquences économiques des mesures de confinement. Dans de nombreux États, des secteurs essentiels de l'économie ont en effet été quasiment à l'arrêt pendant bien plus de 2 mois. J'aimerais tout d'abord vous donner un bref aperçu de la situation actuelle de la pandémie sur les principales places économiques de la planète. Je commence avec la Chine et le reste de l'Asie. Tout d'abord, les pays asiatiques tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan parviennent toujours à empêcher que les cas d'infection ne repartent à la hausse. En d'autres termes, à endiguer une seconde vague. Est-ce malgré un net assouplissement des mesures de quarantaine? À la suite des assouplissements mis en œuvre, certains États, notamment la Chine, la Corée du Sud et Singapour, ont recensé ces dernières semaines de nouveaux foyers d'infection, qui semblent toutefois être de nouveau sous contrôle. Pour l'instant, l'Asie a manifestement pu éviter une seconde vague épidémique grâce à la reconstitution des chaînes d'infection et à la mise en quarantaine des personnes concernées. En Suisse, le nombre d'infections confirmées chaque jour depuis mi-mai reste souvent nettement en deçà de la barre des 50 cas. De même, on ne compte heureusement plus qu'une poignée de nouveaux cas d'hospitalisation et de décès liés au Covid-19. Hier, lors de sa conférence de presse, le Conseil fédéral a annoncé la levée de l'état de situation extraordinaire au 19 juin. Comme on s'y attendait, de nombreuses nouvelles mesures d'assouplissement entreront en vigueur le 6 juin. Certaines étaient déjà prévues depuis longtemps, tandis que d'autres sont plus vastes et tiennent compte de la nette amélioration de la situation. La fréquentation des restaurants par des groupes de plus de 4 personnes sera de nouveau possible. Il n'y aura plus de limitation du nombre de convivés, mais une adresse devra être indiquée pour chaque table. Les plans de protection continueront bien entendu d'être appliqués. Jusqu'ici, limités à 5 personnes, les regroupements sur la voie publique places d'installations sportives, par exemple, des parcs, pourront réunir jusqu'à 30 individus. Les campings, les centres de bien-être, les domaines skiables, les jardins botaniques et zoologiques, ainsi que les parcs animaliers, rouvriront eux aussi comme prévu. Le Conseil fédéral a également confirmé hier la reprise des cours présentiels dans les écoles du secondaire 2, ainsi que dans toutes les autres écoles et universités. Il devra toutefois là aussi être possible de reconstituer une éventuelle chaîne d'infection. En revanche, les manifestations réunissant plus de 1 000 ou de 300 personnes, c'est la nouvelle limite, je pense, resteront dans tous les cas interdites jusqu'à fin août. L'exécutif recommande toujours de privilégier, dans la mesure du possible, le télétravail. Des assouplissements dans le cadre de la libre circulation des travailleurs étrangers ont également été décidés. Nos frontières avec l'Autriche, l'Allemagne et la France rouvriront complètement à partir du 15 juin. Si l'Italie laissera entrer dès le 3 juin les personnes venant de Suisse, cette dernière a décidé de ne pas encore ouvrir la frontière à cette date, d'où certaines tensions diplomatiques. Une coordination sera probablement nécessaire également dans ce domaine de la frontière entre l'Italie et la Suisse. La Suisse souhaite lever complètement les restrictions de déplacement pour l'ensemble de l'espace Schengen d'ici au 6 juillet. Last but not least, les grands-parents pourront de nouveau garder leurs petits-enfants. Pour résumer, quasiment tout sera de nouveau possible en Suisse à compter du 6 juin, à l'exception des manifestations d'envergure. Les cantons auront une plus grande marge de manœuvre, mais aussi davantage de responsabilités dans le cadre de la garantie des plans de protection. Les États voisins de la Suisse se trouvent actuellement dans une situation comparable. Dans de nombreux autres pays européens, la vague épidémique faiblit et la priorité est à présent au redémarrage de l'économie. La Grande-Bretagne est toujours légèrement à la traîne. Elle recense encore 10 fois plus de nouveaux cas par jour que l'Italie à présent. Il est donc confirmé qu'elle devra observer des mesures strictes un peu plus longtemps que la plupart des pays de l'Union européenne. La situation aux États-Unis reste bien plus tendue qu'en Asie et en Europe. Même si des mesures de confinement sont toujours en vigueur sur les côtes est et ouest, le reste du territoire a déjà fait l'objet de vastes assouplissements. Le pays a franchi fin avril la barre du million de personnes infectées. Près de 1,7 million de citoyens ont déjà été testés positifs au coronavirus et notre crainte que ce chiffre ne s'établisse à environ 2 millions d'ici fin juin s'est confirmée. À ce jour, 5 000 personnes y sont déjà décédées des suites du COVID-19. Si la tendance actuelle se poursuit, 120 000 personnes pourraient fin juin avoir été infectées par le COVID-19 et être victimes de COVID-19 comme nous le redoutions. On craint également que la mise en œuvre prématurée des mesures d'assouplissement ne fasse augmenter davantage ce chiffre jusqu'à l'automne. Il est probable que le nombre de décès se monte d'ici là à 200 000. À l'échelle mondiale, la situation s'est nettement améliorée, d'abord en Asie, puis en Europe. On continue d'observer une normalisation de l'activité économique. Des obligations et plans de protection continueront toutefois de s'appliquer, ce qui engendrera des restrictions et coûts supplémentaires en matière de chiffre d'affaires dans de nombreuses branches. Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas reste élevé, après que de vastes mesures d'assouplissement ont très tôt été engagées. De nombreux experts américains de la santé mettent en garde contre de très graves conséquences d'un redémarrage trop rapide de l'économie et contre une seconde vague épidémique. Je passe maintenant à la discussion des répercussions sur l'économie. Le scénario optimiste d'une nette reprise de l'économie au second semestre semble se confirmer. Le plan de sauvetage encore en discussion au sein de l'Union européenne, qui porte sur un montant supérieur à 750 milliards d'euros, pourrait constituer un jalon historique pour celle-ci. Pour la première fois, l'Union européenne pourrait financer ce projet par le biais d'un endettement en grande partie commun. Selon de sources fiables, c'est l'Italie qui devrait le plus profiter de cette manne, environ 70 milliards d'euros. L'Espagne devrait pour sa part recevoir quelque 140 milliards d'euros. La question cruciale qui se pose encore est de savoir quelle part de ce montant sera versée à fonds perdu et quelle proportion prendra la forme d'un crédit. Les quatre États les plus économes, l'Autriche, les Pays-Bas, la Danemark et Suède, ne sont pas fondamentalement opposés à ce plan, mais plaideront lors des négociations pour une grande partie de crédits remboursables. Le fait que l'Allemagne, à l'instar de la France, soutienne vivement ce programme contraste toutefois avec la position habituelle du pays au sujet d'une mutualisation de la dette de l'Union européenne. Même si le plan n'a pas encore été adopté à l'unanimité par les 27 États membres, le caractère exceptionnel de la situation et la forte dépendance de l'Allemagne vis-à-vis des exportations rendent ce programme plus intéressant pour elle que ceux envisagés lors des crises antérieures. Nous continuons d'émettre des réserves quant au scénario de reprise économique aux États-Unis, car on ne sait pas comment les consommateurs et les entreprises réagiront face à la menace représentée par le virus qui est toujours élevé aux États-Unis. Voilà, maintenant je passe au marché des actions et aux devises. Donc même si une lente reprise de l'économie se dessine en Europe et aux États-Unis, cette évolution ne pourra être confirmée que fin juin environ par les statistiques ad hoc. Il devrait alors être davantage possible d'évaluer son ampleur, ce qui pourrait stimuler les marchés des actions. Dans l'ensemble, on table toutefois sur une reprise modérée. Après un mois d'avril réjouissant, les marchés des actions ont globalement peu évolué en mai. Le SMI a pour l'instant gagné environ 3% depuis le début du mois, avec une hausse de près de 7% en mai. L'indice technologique américain Nasdaq a une nouvelle fois le vent en poupe. La technologie reste donc nettement surpondérée dans le cadre de notre stratégie de placement. Nous parlons d'un investissement satellite qui est, disons, un complément à la stratégie habituelle en termes d'un investissement dans le cadre technologique américain. À ce jour, l'indice suisse des actions a chuté de près de 7% depuis le début de l'année. Dans le même temps, le marché américain des actions a reculé de quelque 9 à 10%, celui de l'ensemble de l'Europe de 17% et celui de la Chine de 6%. La valeur du franc par rapport au dollar américain et à l'euro a par ailleurs peu évolué depuis fin avril. Le marché semble donc actuellement attendre de nouvelles impulsions et des signaux plus clairs de la part de l'économie. On peut dire que aussi dans les derniers jours, l'euro est un peu plus fort, aussi à cause de ce plan de sauvetage qui est en train d'être conclu dans l'Union européenne. Maintenant, je passe aux conséquences sur nos stratégies de placement. L'amélioration observée sur les marchés mondiaux des actions en avril et dans une moindre mesure en mai a également eu des répercussions positives sur nos stratégies de placement. Elles ont notamment profité de la hausse du cours des actions européennes aussi. Les pertes enregistrées depuis le début de l'année se sont donc encore atténuées depuis notre dernière conférence téléphonique du 14 mai. Je vous donne les chiffres pour les trois stratégies les plus diffusées, donc la stratégie revenu, la stratégie équilibrée et la stratégie de croissance. Avec la stratégie revenu, nous sommes depuis le début de l'année à une perte de moins 0,8% à présent, la stratégie équilibrée à moins 3,5% et la stratégie de croissance à moins 5,6% en négatif à partir du début de l'année. Les différences de rendement entre les stratégies de placement classiques et durables restent faibles, comme nous l'avions prévu. Pour obtenir des informations plus précises concernant votre dépôt personnel, n'hésitez pas à vous adresser à votre conseiller ou conseillère. Donc, je passe aux conclusions. Enfin, une amélioration de la conjoncture à compter du second semestre se dessine à présent clairement. L'économie mondiale ne devrait toutefois pas reprendre rapidement de couleur. La situation aux États-Unis pèse toujours sur nos perspectives économiques. Nous continuons de suivre la situation de très près dans le cadre de nos activités de placement et restons donc susceptibles d'adapter notre stratégie de placement et notre tactique. Il y a à peu près 10 jours, nous avons en fait réduit un peu notre exposition au marché américain en prenant, disons, on a pris du profit sur des positions, on a réduit un peu l'exposition, mais nous restons avec une position stratégique sur un niveau neutral, on a la proportion stratégique en action. Pour finir, je vous informe qu'une nouvelle conférence se tiendra le jeudi 25 juin. La série se poursuivra et à une fréquence mensuelle. Vous recevrez ultérieurement des informations à ce sujet. Je vous donc remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que mes explications vous auront été utiles.